Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette émission Parlons-en, c'est Freddy sur les ondes de Radio Ecclesia et je me trouve aujourd'hui à Langlade, au cœur d'un musée extraordinaire, atypique. C'est le musée de l'outil, l'intelligence du geste, la collection de Pierre Hénin qui est à mes côtés. Bonjour Pierre.
Bonjour Fred.
On est à Langlade, l'outil, l'intelligence du geste, qu'est-ce que ça signifie au juste pour ce musée? Expliquez-nous.
Ça signifie beaucoup de choses. D'abord, c'est une démarche fondamentale qui m'appartient puisque mon choix, au travers de mon atavisme de collectionneur depuis plus de 50 ans, fait que j'ai orienté petit à petit mes recherches et en particulier, aujourd'hui, j'en suis uniquement dans la démarche fondamentale, non plus de l'outil tout simplement, mais dans une démarche d'approche de ce qu'a pu être le travail et l'environnement du travail dans les 500 dernières années à peu près. Ainsi, on se retrouve avec des objets qui sont des objets usuels, qui sont des objets techniques, qui sont des objets professionnels ou qui sont simplement des créations basiques pour améliorer l'environnement. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut en appelant sur Minitel et Madame Google, mais à cette époque-là, on faisait tout comme on faisait, comme on pouvait. On se le signifiait en le décorant, en l'agrémentant et surtout en laissant apparaître une partie de sa personnalité et de son savoir, de son savoir-faire, de sa créativité, sans oublier évidemment des petites accroches à l'environnement qui était autour de nous. C'est ça, c'est ce que l'on retrouve aujourd'hui au travers des visages qui sont laissés, au travers des dessins qui sont faits sur les objets, au travers peut-être aussi des oiseaux, des fleurs, enfin de tout ce qui était autour de ces gens qui n'avaient pas forcément eu la chance de suivre des études, d'aller tout simplement à l'école ou même d'apprendre à lire.
Combien d'objets vous exposez aujourd'hui?
Aujourd'hui, il y a visible et accessible facilement aux alentours de 3 500 pièces, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas visibles.
C'est vous qui les restaurez ou vous faites appel à une société externe?
Alors j'ai une petite main qui vient m'aider bénévolement, qui est passionnée par certains de mes objets, que j'ai formés depuis 4-5 ans à mes côtés, et qui s'y tient proche très rapidement et qui a une bonne maîtrise. Je pense que cette fois, presque dans ce domaine-là, l'élève a dépassé le maître, ce qui est une très bonne chose, parce que c'est la notion de la transmission et du partage du savoir et du savoir-faire, entre autres.
Pierre, cette collection a commencé par un outil, lequel? Comment tout a débuté?
Alors tout a commencé par un professionnel, puisque c'est mon ami d'enfance avec qui je garde une grande amitié depuis 60 ans. Et effectivement, cet ami était un compagnon, forgeron, serrurier du devoir, et qui avait une connaissance du métier beaucoup plus que moi, ayant suivi un cursus scolaire bien différent de celui du travail manuel. Et de ce fait, eh bien, on a découvert un outil dans une grange d'Ardèche qui est une herminette, un petit outil rustique, mais de belle esthétique. Eh bien, il m'en a expliqué l'intérêt. On a décrit un peu les formes et de là est partie cette aventure qui dure encore 50 ans après.
J'aimerais me diriger vers les cannes là-bas, des symboles très ésotériques, spirituels, religieux, avec ce serpent qui enroule cette canne. C'est un objet qui est magnifiquement sculpté.
C'est pas que des outils, c'est beaucoup des objets de la vie du quotidien au travers desquels l'outil avait une place importante, puisque c'était de lui que partait ce que l'on allait faire. Et il est évident qu'à cette époque-là, la notion de religion et d'église était très importante et que certains sont allés jusqu'au bout de leur démarche. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas qui est le certain qui est allé au bout, mais si par exemple on reprend cette canne qu'on va aller chercher et qu'on va prendre en main, eh bien on va essayer de la décrire. Le serpent, c'est tout et son contraire. Parce que c'est le bien et le mal, c'est le soin et c'est la souffrance, voire la mort. Le jardin d'Éden, puis surmonté du jardin d'Éden, Dieu, et puis Adam, tout penaud, et puis Ève, et puis au-dessus, eh bien, on retrouve tous ces emblèmes qui sont les symboles de l'évêché, de l'évêque, avec la mitre, avec les crosses, les drapeaux, les... Au-dessus, eh bien, évidemment, la passion avec la crucifixion et les outils de la passion, le coq, le soleil, la lune, voilà. Et de l'autre côté, ce jeune, sûrement jeune prêtre qui se présente devant sa carrière et surtout sa vocation religieuse de jeune prêtre.
Un autre objet qui qui m'a fasciné avant de commencer cette émission. C'est un coffre qui date du XVIe siècle, un petit coffret.
Je viens de finir de le restaurer. Oui, effectivement, il m'a fait gagner 100 ans dans la collection puisqu'il est daté de 1580. Il est aux armes de Savoie et sur une garniture en bois de pin, comme on trouvait dans cette région de Savoie, eh bien, il a été complètement recouvert de cuir, gaufré, et nous laisse apparaître sous le coffre la date de 1580 au milieu des armes de Savoie, ce qui est une grande satisfaction pour moi, puisque je ne suis pas forcément un fanatique du régionalisme, mais de la France et de tout ce qui a pu être fait en France, puisque quand même cette collection doit compter au moins 98% d'objets venant du territoire français.
Quelle est l'autre vie de ces objets lorsque vous ne serez plus là? Que vont-ils devenir?
C'est effectivement le problème de cette collection. Cette collection représente à peu près au moins 50 ans de recherche. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus tellement dans le goût du jour. On n'intéresse pas beaucoup. Je pense que dans 20 ans, tout le monde recherchera tout ça parce qu'on se sera éloigné de tout ça. On est une génération où on a vu nos grands-parents ou arrière-grands-parents utiliser encore ces objets, voire même les créer. Mais dans 20 ans, ça sera fini. Et malheureusement, c'est la destinée de cette collection qui est ma principale préoccupation. C'est pas le nombre, c'est pas la quantité, c'est pas de finir tous ceux qui sont là. C'est surtout d'essayer de leur trouver un avenir.
Mais ce futur, vous avez commencé déjà à le sculpter en leur donnant la possibilité d'une vie virtuelle en créant votre site.
Oui, effectivement, il y a un site qui s'appelle collection-pierre-hénin.com. J'ai fait 19 petites scénettes de 5 minutes sur des typologies donc que l'on peut voir. J'ai eu la chance d'avoir France 5, d'avoir France 3, d'avoir Radio Ecclésias aujourd'hui.
C'est le plus important.
Peut-être que ça sera le plus important. Vous savez, on ne peut présager de rien. Il faut garder confiance, il faut continuer à se battre. Mais c'est vrai que l'avenir, c'est difficile. Et comme ma démarche fondamentale était de sauvegarder pour partager, eh bien, j'espère que tous ces outils pourront partager encore après avec beaucoup de personnes, puisqu'aujourd'hui, je crois que pas loin de 100 000 personnes connaissent la collection.
Le dernier objet, ça ressemble à un crochet de raseteur.
Je vois que le pays l'emporte sur l'histoire, mais effectivement, ce crochet n'est pas un crochet de raseteur, ce n'est ni plus ni moins qu'une main de fer. Mais il n'a pas servi, c'est une offrande, parce qu'à cette époque-là, on faisait des choses pour les offrir, on n'allait pas les acheter à la boutique du coin de la rue, et on les fabriquait. C'est un objet qui est 19e. Ce qui est important, c'est la symbolique qui est dessus, c'est que c'est deux mains qui sont ouvertes pour tenir le chaudron, puisque ces mains de fer servaient à décrocher le chaudron dans l'âtre. Ces mains de fer sont ni plus ni moins que la représentation du défi, qui a été le défi permanent de l'homme, c'est-à-dire l'homme et le feu. Puis ces deux cœurs en biais qui se rapprochent, c'est l'amour, évidemment. Puis ces deux petits glands aux extrémités qui sont symboles de fécondité. Tout en haut, dans la poignée, ces deux petits dauphins ne sont autres que les peuples venus d'ailleurs. Les gens, on n'avait pas tout à fait la notion géographique que nous connaissons aujourd'hui. Et les gens qui venaient d'ailleurs venaient que de la mer. Ils ne pouvaient pas venir d'ailleurs, c'est bien évident, dans l'imagerie de cette époque-là.
Vous êtes l'un des premiers collectionneurs aussi de balances en France et en Europe, c'est bien ça?
Oui, je crois que même en art populaire, je commence à être dans les tout premiers rangs, mais en tout ce qui a été le pesage et les charges pondérales, et un petit peu aussi dans la mesure, j'ai une collection exceptionnelle qu'il m'a fallu amincir un peu de par le fait que la place m'a manqué. Malgré tout, les espaces que j'ai ici me permettent de recevoir des petits groupes de 12 personnes, moyennant qu'on prenne rendez-vous, qu'on me téléphone au 06 16 56 39 19. Je vais me faire un peu de pub puisque je suis sur la meilleure radio.
Exactement.
Et je crois que cette aventure du travail des hommes et des femmes sur 500 ans, c'est une grande aventure, c'est un grand voyage et c'est aussi un lieu culturel d'échange intéressant.
Merci Pierre Hénin de cette visite radiophonique de votre collection La mémoire du geste à Langlade.
Ben merci beaucoup à Radio Ecclésias, merci à Frédéric et puis bonne chance à toute cette collection pour son avenir.
Vous souhaitez venir découvrir cette collection? Rien de plus simple. 06 16 56 39 19. Merci de votre fidélité, amis auditeurs. Rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Parlons-en. Retrouvez cette interview sur le podcast de Radio Ecclésia. À bientôt.